Le journal présenté par Maxime Fayol.
Bonjour à tous. Revirement diplomatique en Turquie. Le Premier ministre déclare ce matin que Bachar el-Assad est un acteur à prendre en considération pour la transition politique du pays. Une des conséquences du rapprochement entre Ankara et Moscou, nous expliquera Alexandre Billette. Le régime nord-coréen sort de son silence après la défection de l'un de ses diplomates. Le numéro 2 de l'ambassade du pays à Londres est qualifié de criminel. Cette défection est un revers cinglant pour le régime de Kim Jong-un, détaillera Frédéric Ojardias. Aux États-Unis, le FBI enquête sur l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort. L'homme à la tête de plusieurs sociétés est soupçonné d'avoir reçu de l'argent de la part du parti de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych. Explication de Sarah Mackay et Uber qui se lance dans le marché de la voiture sans conducteur. Le géant américain s'est offert une start-up pour booster son développement sur le marché des taxis-robots. Willy Moreau détaillera cette stratégie en fin de journal. C'est un virage diplomatique important et assez inattendu de la part de la Turquie dans le dossier syrien. Le Premier ministre Binali Yildirim l'affirme pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie. Le président Bachar el-Assad est un acteur à prendre en considération dans la suite du conflit. Un changement de stratégie qui ne peut se comprendre qu'au regard du réchauffement des relations entre Ankara et Moscou. La Russie étant l'un des plus fervents soutiens de Bachar el-Assad. À Istanbul, les précisions d'Alexandre Billette.
Après la réconciliation avec la Russie, avec Israël, la Turquie change de ton sur le dossier syrien. Pas question pour Ankara de se réconcilier avec Bachar el-Assad, bien sûr, mais le Premier ministre turc reconnaît, et c'est la première fois depuis des années, que le président syrien est l'un des acteurs qu'il faut prendre en considération avec une formule alambiquée. Il est possible de parler avec Assad pour évoquer la transition en Syrie, mais pour la Turquie, il n'en est pas question. C'est donc un numéro d'équilibriste qui a été mené aujourd'hui par Binali Yildirim, qui n'est sûrement pas étranger au rapprochement avec Moscou et au léger réchauffement avec l'Iran. Le président Erdogan pourrait même y effectuer une visite prochainement. Bref, deux grands alliés du régime syrien qui multiplient les contacts avec Ankara. Le Premier ministre turc qui a salué au passage les premières frappes des forces syriennes contre des positions kurdes ces deux derniers jours. Comme un échange de bons procédés, Ankara lâche du lest sur le président syrien qui en retour bombarde pour la première fois depuis le début de la guerre les ennemis du pouvoir turc.
Alexandre Billette. Et aux États-Unis, je vous le disais en titre, le FBI se penche sur le désormais ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort. Bonjour Sarah Mackay.
Bonjour.
Alors Paul Manafort a démissionné hier de son poste auprès de Trump. La justice américaine le soupçonne en fait d'avoir touché de l'argent de la part du parti de l'ex-président ukrainien, le pro-russe Viktor Yanukovych.
Oui, et c'est lors d'une conférence de presse qu'on entend ici en début de semaine à Kiev que le nom de Paul Manafort a été prononcé pour la première fois par le chef du Bureau national anticorruption ukrainien, celui qui est alors toujours à ce moment-là le directeur de campagne du candidat républicain à la Maison-Blanche. Est soupçonné d'avoir reçu entre 2007 et 2012 plus de 10 millions d'euros. Une somme qui apparaît dans des registres secrets du parti de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych, président destitué en février 2014 et réfugié depuis en Russie. Démenti de Paul Manafort qui juge les accusations infondées et stupides, il finit quand même par démissionner hier en raison du scandale qui monte, mais aussi à cause de divergences de vues avec Donald Trump. Mais il n'y a aujourd'hui pas que les liens de Paul Manafort avec l'Ukraine qui intéressent les enquêteurs américains. En effet, des questions se posent également sur les relations entre l'équipe de campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton avec l'une des plus grosses entreprises de lobbying basée à Washington, le Podesta Group. Le Podesta Group qui, selon l'agence de presse américaine AP, aurait reçu aussi plusieurs milliers de dollars, peut-être un million, d'un parti politique ukrainien proche de la Russie, et ce par l'intermédiaire d'une société écran. Le Podesta Group, dont le dirigeant n'est autre que le frère de l'actuel directeur de campagne d'Hillary Clinton. Alors pas de commentaire du FBI pour le moment, mais l'enquête menée conjointement avec le département américain de la justice ne fait pour l'instant que débuter.
Les précisions de Sarah Mackay. La Corée du Nord tire à boulet rouge sur Tae-yong-ho, le numéro 2 de l'ambassade de Corée du Nord à Londres. L'homme a fui, direction le sud. Il est considéré comme un criminel par Pyongyang, qui le qualifie même de pourriture humaine, selon les termes de l'agence de presse officielle. Cette défection est en tout cas une mauvaise nouvelle pour le régime nord-coréen, et notamment pour ses finances, Frédéric Ojardias, car l'homme était notamment en charge de la caisse noire du régime.
L'hémorragie continue parmi les élites nord-coréennes. Selon la presse de Corée du Sud, ce nouveau transfuge était basé en Europe depuis 20 ans. Il travaillait pour le Bureau 39, une organisation secrète en charge de fournir des devises étrangères aux dirigeants de Pyongyang. Le quotidien Tonga Ilbo affirme que l'homme a fait défection en juin, emportant avec lui des centaines de millions de dollars. Le fuyard aurait trouvé refuge avec ses deux fils dans un pays européen non identifié. Le Bureau 39 est accusé par les États-Unis de mener de nombreuses activités illégales telles que du trafic de stupéfiants. La fuite d'un de ses agents est un véritable jackpot pour les services de renseignements occidentaux. Frappé en mars de nouvelles sanctions, le régime nord-coréen fait face à une hausse des défections de ses diplomates. Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, 10 d'entre eux sont passés au sud l'année dernière et 7 autres depuis le début de l'année.
Frédéric Ojardias. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle est repoussée en juillet 2017, annonce aujourd'hui la commission électorale. Elle était initialement prévue en novembre. Le report du scrutin est justifié par le retard pris dans l'enregistrement des nouveaux électeurs. Retour en France, pas à pas, les vacances politiques touchent à leur fin. Après la candidature de Benoît Hamon la semaine dernière à la primaire de la gauche, aujourd'hui c'est une autre ancienne ministre qui fait parler d'elle, Cécile Duflot. Nous vous l'annoncions hier sur France Culture, la députée de Paris sera bien candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts en octobre prochain. L'ancienne ministre a dû chasser de son esprit les mauvais souvenirs de la primaire de 2011 qui avait largement divisé le parti. Pour le porte-parole d'Europe Écologie, Julien Bayou, cette candidature est bénéfique pour les Verts.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle, on l'attendait un peu, il faut le reconnaître. Et puis désormais, on a trois bons candidats, je pense, pour la primaire. On a les deux députés européens, Yannick Jadot et Michel Rivasi, qui sont des militants qui ont combattu les lobbies du nucléaire. Et puis Cécile Duflot, députée et ancienne ministre, qui justement a choisi de quitter le gouvernement par conviction, parce que l'écologie n'était pas prise en compte. Et donc avec ça, je pense qu'on commence à avoir une affiche intéressante pour la primaire. Je pense qu'on peut organiser des débats sereins, où chacun met en avant sa singularité. En fait, on est quand même assez homogène sur le projet écologiste. Il n'y a personne qui est pour le nucléaire ou je ne sais quoi. Et donc, c'est à chacun de démontrer qu'il est la meilleure personne, mieux armée pour incarner le projet présidentiel. Clairement, nous, la dernière primaire, c'était pas super bien passé, n'avait pas vraiment servi de catalyseur, de tremplin. Donc, on n'est pas condamné à refaire les mêmes échecs. Si on tire des leçons, je pense qu'on peut y arriver cette fois-ci.
Julien Bayou, joint par Valérie Crova. Et la rentrée politique ne fait que commencer. Après Benoît Hamon cette semaine, je vous le disais, demain c'est Arnaud Montebourg qui devrait officialiser sa candidature à la primaire de la gauche lors de la traditionnelle fête de Frangy-en-Bresse. Le géant américain Uber se lance dans la voiture autonome. L'entreprise s'est d'abord alliée à Volvo pour investir 300 millions de dollars pour des tests futurs. Mais Uber ne s'arrête pas là et vient de racheter une start-up américaine, Auto, qui développe des logiciels pour ce type de véhicule autonome. Bonjour Willy Moreau.
Bonjour.
Le taxi qui se conduit tout seul, c'est de l'utopie ou c'est déjà pour demain?
Alors les premiers modèles pourraient voir le jour dans quelques semaines à peine. Des essais sont déjà en cours depuis quelques jours à Pittsburgh en Pennsylvanie. C'est dans cette ville que les premières offres de ce type seront disponibles. Alors cette annonce ne fait pas que des heureux. À Pittsburgh, les conducteurs s'inquiètent déjà. Ils se demandent s'ils pourront continuer leur activité à l'avenir. Mais Uber rassure, la loi de la Pennsylvanie oblige d'être titulaire d'un permis pour être assis devant le volant. Voiture automatique ou pas, petit répit donc pour les chauffeurs. Pour commencer, l'entreprise prévoit la mise en place de quelques véhicules autonomes. Deux salariés occuperont les places avant pour reprendre le contrôle si nécessaire, car pour l'instant, Uber est encore en phase d'expérimentation. Mais le fondateur Travis Kalanick promet bientôt la mise en place d'une centaine de voitures pour attirer les clients. Les premières courses seront gratuites. L'idée à terme, c'est l'implantation dans le monde de centaines de milliers de véhicules de ce type, ce qui permettrait de faire baisser les prix et donc d'attirer plus de clients. Mais pour en arriver là, Uber s'est rapproché également du constructeur automobile Volvo. Ensemble, ils comptent investir 300 millions de dollars pour créer un nouveau modèle capable de se déplacer sans chauffeur. Pour en voir la couleur, il faudra attendre quand même au moins 2020. Quoi qu'il en soit, Uber marque un grand coup en devenant la première entreprise à utiliser cette technologie à destination des particuliers. Elle devance même le géant Google qui s'est lancé aussi dans l'aventure des véhicules autonomes et qui cumule déjà 2 millions de kilomètres d'essai.
Les précisions de Willy Moreau. On apprend aujourd'hui la mort de Jérôme Monod, l'ancien patron de Suez. Lionel Desault, très proche collaborateur et ami de Jacques Chirac, est décédé jeudi à l'âge de 85 ans dans sa propriété de Lourmarin dans le Vaucluse. Un détour par les Jeux de Rio. La France a conquis une 38e médaille cet après-midi en kayak monoplace. Maxime Beaumont a remporté une médaille d'argent sur 200 mètres. La délégation tricolore est désormais assuré de dépasser le nombre de médailles obtenues à Pékin en 2008 avec 42 unités après les finales de boxe et de handball qui auront lieu cette nuit. Le temps de demain matin, dimanche, le soleil revient dans la majeure partie du pays, notamment dans le quart sud-est. La pluie tombera au nord et en Normandie avec notamment des orages attendus près de la Belgique. Les températures, elles, restent fraîches le matin avec 17 degrés du côté de Lille, jusqu'à 25 degrés à Nice. Il n'y aura pas plus de 19 degrés à Paris, on comptera 20 à Saint-Étienne. Il est 18h10 sur France Culture, on retrouve tout de suite les passeurs de science avec Lydia Benistac.